Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un live avec Sabrina que je vais inviter tout de suite.
Hello Sabrina, je vois que tu es en ligne. Est-ce que tu as reçu mon invitation à te connecter? Ah, parfait. Hello Sabrina, est-ce que tu m'entends bien?
Merci d'avoir accepté mon invitation pour aujourd'hui. Comment tu vas aujourd'hui, Sabrina?
Ça va bien. Un petit peu stressé, mais ça va bien.
Ok, bon, bah, écoute, on va mettre les conditions pour que tu te sentes le plus à l'aise possible pour partager un petit peu ce qui t'anime. Et puis, moi, je vais te poser des questions et on va se faire ça en mode discussion. Pour que ce soit pas non plus une interview trop formelle et que ça semble comme un moment convivial. Et
Parfait.
du coup, pour les gens qui nous regardent maintenant, ou les personnes qui nous regarderont plus tard, je connais Sabrina parce qu'elle a participé récemment à un programme de coaching de groupe qui avait eu lieu pendant l'été. J'ai bien connecté avec toi, j'ai bien ce que tu fais et je me suis dit, tiens, on va pouvoir peut-être parler un petit peu plus de sujets qui nous animent tous les deux. Je suis sûr que intéressé pour approfondir et savoir encore un peu plus quel est ton point de vue, comment tu vois les choses sur certains sujets. Et on va voir, je suis sûr que ça va passionner les gens qui vont regarder aussi ce live ou le replay. Et est-ce que tu veux commencer juste par te présenter, nous dire un peu plus qui tu es?
Ok. Donc Sabrina, je suis aujourd'hui, je suis une amoureuse de la vie, pour dire qui je suis. Et au niveau de mes activités, donc je suis formatrice et praticienne en archives akashiques, en Reiki également, et à venir prochainement en facilitatrice en Kundalini Activation. Voilà pour mes outils, mais en réalité, ce ne sont pas nos outils qui nous définissent, tu le sais très bien. Donc, je suis une personne curieuse, je me suis toujours intéressée à la spiritualité, au développement personnel, même jusqu'à l'ésotérisme aussi. Donc, voilà.
Merci, merci pour introduire. Tu es un petit peu à travers cet angle. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. L'aspect professionnel, forcément, nous influence, mais on est tellement plus que ça. Que du coup, tu veux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tous ces sujets? Ça a été quoi pour toi ton parcours avec la spiritualité, développement personnel? Peu importe le mot que tu mets derrière, mais peut-être avec l'invisible.
Yes. J'ai un parcours à la base qui est assez classique dans le sens où j'ai suivi des études, j'ai suivi un peu les desiderata des parents d'aller à la fac, de faire des études. J'ai intégré un gros groupe très corporate, donc j'ai une carrière corporate aussi. Mais à côté de ça, il y avait aussi mon papa qui a de la médiumnité, puis du côté de ma maman, il y avait du magnétisme. Tout ça, c'était fait. Tout à fait à couvert, c'était pas du tout, on n'en parlait pas, c'était pas visible, c'était des choses un peu secrètes entre guillemets en tout cas, on n'en parlait pas. Mais j'ai toujours été intéressée par ces sphères-là, donc j'ai commencé à tirer le tarot, j'avais 14-15 ans, quelque chose comme ça. Donc ça a commencé comme ça, les premières recherches ont été liées à l'ésotérisme, et puis en 2016, ma rencontre avec le Reiki dans le cadre d'une conférence a vraiment tout changé. Donc j'ai commencé d'abord par me former au Reiki, puis en 2019 j'ai découvert les archives akashiques et là je me suis dit waouh, je trouvais ça incroyable et en même temps pour moi c'était comme d'habitude. Donc aujourd'hui je réalise qu'en fait c'est ma zone de génie, mais à l'époque j'avais pas cette notion-là. Et depuis en fait depuis 2016 j'ai fait vraiment le grand saut dans le bain de la spiritualité et à mon compte depuis 2019, donc j'ai quitté le gros groupe pour lequel je travaillais début 2019 et à mon compte depuis 2019. La spiritualité, pour moi, aujourd'hui, au-delà des outils que je nomme, c'est important de l'incarner et de la vivre au quotidien. Voilà, de vivre la joie, c'est pas seulement à méditer et faire des om toute la journée, c'est vivre la joie, être ici et maintenant, revenir dans le moment présent aussi.
Ouais, des notions qui me sont chères aussi.
Je sais, je vois ça et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette connexion au-delà du coaching que j'ai suivi avec toi. C'est vrai que du coup, il y a une connexion qui s'est faite et c'est chouette. Ouais. Des
Ouais.
valeurs communes de liberté, d'authenticité, de spiritualité ici et maintenant dans notre corps. Quel est l'intérêt autrement de nous incarner si c'est pour chercher à s'évader tout le temps? La spiritualité et l'amour, c'est ici aussi dans la chair.
Bien dit. Tout à fait d'accord avec toi, Sabrina. Ouais. En plus, je trouve que la transition là que tu décris, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé pour toi, le fait de passer à un grand groupe corporate, à comment au niveau des challenges que tu as rencontrés. Il faut que c'est une bonne mise en application de finalement de cette spiritualité, parce qu'on peut avoir la spiritualité un peu peut-être déconnectée ou théorique, et puis des fois, quand on a une transition de vie qui est assez importante, notamment professionnelle, on doit suivre son cœur et essayer de trouver son chemin. C'est là qu'on est quand même mis à l'épreuve sur est-ce qu'on a compris les leçons, qu'on est capable de mettre ça en application, qu'est-ce qu'on découvre sur le chemin, que tu nous vas raconter un petit peu plus, c'était quoi les différents challenges que tu as pu rencontrer toi sur ta route, sur cette transition ces dernières années. Je te laisse la parole.
J'ai la chance de ne pas avoir eu de gros, gros challenges. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que dans le grand groupe dans lequel j'étais, on m'enchaînait les CDD en me changeant d'entité, mais toujours au sein du même groupe. Et puis, j'ai postulé pour un CDI chez eux, sachant que jusqu'à cette interview-là, je n'avais jamais raté j'avais jamais, j'avais toujours les postes, en fait. Donc, me voilà partie. Et avant d'y aller, j'ai dit, OK, je m'adresse à l'univers et je dis, soit je dois avoir ce CDI, soit je dois me mettre à mon compte. Donc, on était fin 2018, moi, ça faisait déjà 2 ans que je pratiquais le Reiki, j'avais passé ma maîtrise, j'avais déjà initié une personne. Donc, je me posais déjà la question, j'en faisais déjà le week-end, j'en faisais après le boulot le soir. Donc, je me disais, bon, où je trouve mon équilibre, soit je rentre à fond dans cette vie corporate et j'intègre un CDI, soit peut-être faut que je me mette à mon compte. Et le retour que j'ai eu suite à cet entretien a été vraiment cata. On m'a dit, Sabrina n'a aucune empathie. Je ne me suis pas reconnue. Je me suis demandé qui ils avaient eu, en l'occurrence, qui elles avaient eu en face d'elles. Et j'ai dit, OK, j'ai compris. J'ai mis 15 jours à le digérer quand même. Et donc, début 2019, je quitte ce groupe parce que mon contrat se termine. Et je me laisse quelques mois. J'ouvre mon statut en mai. Et en réalité, j'ai commencé à exercer réellement qu'en septembre. Et je crois que le plus gros challenge, c'est que on connaît tous l'actualité qu'on a vécue à partir de fin 2019, 2020, 2021. Ça a été ça, en fait. Le plus gros challenge, ça a été de commencer une activité et à peine commencer, elle se met à l'arrêt. Et si ça, c'est pas l'univers qui dit, OK, là, tu es complètement stoppé. Tu es sûr que c'est ça que tu veux faire. Tu es sûr que c'est là que tu veux aller. Ça a été un temps d'introspection, d'apprentissage. Ça a été énorme pour moi, cette période où on était à l'arrêt. Ça a vraiment confirmé mes choix, mes volontés. Ça m'a permis de beaucoup pratiquer aussi, sur moi, pour moi. Et je crois que c'est le plus gros challenge que j'ai eu, en fait, c'était ça. Et après, j'ai un challenge qui revient régulièrement, qui est plus lié à un questionnement de est-ce que vraiment ce que je transmets, c'est juste? Est-ce que je suis à la bonne place? Comment je peux faire mieux? Il y a vraiment ça qui revient chez moi assez régulièrement, tous les 3-4 mois à peu près, où il y a ce retour sur soi, en fait, de OK, on en est où? C'est pas toujours très agréable, mais je pense que c'est nécessaire.
Ouais, tu le dis bien. Je vois bien les deux côtés de la médaille ou de la pièce là quand tu dis ça. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi un moteur de vouloir proposer un maximum de valeur à une personne que tu peux servir. D'un autre côté, ça demande aussi du coup de se poser des questions, de se remettre en question, d'être capable d'identifier ce qui marche moins bien. Enfin, je peux comprendre que ce soit challengeant, même si je suis sûr qu'au final, ce sont des questionnements qui t'amènent à pouvoir encore plus rayonner.
Tellement.
Ouais.
C'est porteur. C'est ce qui permet aussi, si jamais on est un petit peu décalé, de se réajuster et puis de continuer. Puis il y a très souvent, l'univers est joueur aussi, hein, parce que c'est dans ces périodes-là que j'ai les plus jolies validations, que j'ai des retours incroyables, où je me dis, bon, OK, c'est bon, j'ai compris, mais il y a quand même des phases où je me dis, bon, est-ce que. Mais bon, c'est les moments où j'ai des belles validations, des jolis retours.
Merci de partager ça parce que c'est vrai que quand on entend des personnes qui ont une activité, on a l'impression que tout est facile et là tu montres un peu plus la réalité, comment ça se traverse plus concrètement avec les hauts, les bas, les côtés lumineux, les côtés apparemment plus sombres. Et merci de partager ça parce que ça semble plus réel et authentique. Et on parlait tout à l'heure d'authenticité et je trouve que, rien que quand tu partages ça, ça sonne juste. Merci pour transmettre ça.
C'est pas un chemin linéaire. Il y a quelques rares personnes qui le vivent de façon linéaire et c'est chouette pour ces personnes-là. On est aussi, il y a un mouvement d'expansion de conscience qui s'est accentué aussi avec justement ce qu'on a vécu 2019, 2020, 2021. Et du coup, on est aussi nombreux à proposer des choses liées à la spiritualité, que ce soit Reiki, magnétisme, Theta Healing, archives akashiques, etc., guidance. Donc, il y a un moment aussi où qui on est nous au sein de cette spiritualité-là, et qu'est-ce que nous on veut transmettre en plus de ces outils. Voilà, il y a quelque chose de plus humain derrière.
C'est intéressant ce que tu dis par rapport à, vu qu'il y a de plus en plus aussi de personnes qui, je trouve aussi, hein, s'expriment sur ce sujet, et tant mieux, ça montre que il y a une élévation de conscience, il y a du changement. Et en même temps, c'est quelle est ma voix là-dedans? Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de transmettre? Je trouve que c'est aussi des bons questionnements parce que c'est en trouvant son positionnement à soi que on est à sa place, que les choses ont tendance à fleurir plus facilement pour nous. Et d'où aussi les moments d'introspection et les moments où il faut se poser des questions, je trouve, pour savoir qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi, qu'est-ce qui est vraiment aligné, où est ma vérité, où est mon message. Comment tu fais du coup concrètement quand tu traverses ces moments où tu te poses ces questions? Qu'est-ce qui t'aide? Je trouve ça, c'est vraiment intéressant de te dire, tiens, concrètement, dans la pratique, quand on traverse ces moments où ça bouge, où on se pose ces questions, est-ce que tu as des bonnes pratiques, des choses que tu aimes faire qui t'aident dans ces périodes?
Ouais, je fais appel à des gens comme toi.
Ha
Les bons accompagnants se font accompagner. Donc, proposer moi mes services sans moi me faire accompagner par ailleurs, faire des séances énergétiques sans moi par ailleurs recevoir des séances énergétiques, pour moi, c'est pas aligné. Il y a vraiment ce besoin aussi à un moment de faire appel à quelqu'un d'autre, d'avoir un regard sur ce qu'on fait, qui on est, sur nos doutes. Il y a des moments aussi où je suis toute seule, hein, avec le petit hamster dans la roue là, qui tourne. Mais c'est tellement important. Donc, ben, j'ai fait un coaching avec toi. Je fais appel à une personne pour des séances de Theta Healing pour venir débloquer toutes les croyances limitantes, toutes les choses dont j'ai pris conscience. Ça passe toujours par une première phase qui est vraiment très personnelle et qui, de mon point de vue, c'est un incontournable. C'est de l'honnêteté envers soi-même. Avoir l'honnêteté de dire, là, ça gratte. Là, je me suis comparée. Là, il y a de la jalousie. Là, il y a de l'inconfort. Là, il y a du doute. Là, il y a déjà cette première phase-là qu'on peut appeler shadow work aussi, de dire, OK, quelles sont mes parts d'ombre? Mais elles font partie de nous. Il faut aussi les accueillir. Et ensuite, on peut aller voir quelqu'un d'autre et ça nous aide. On va beaucoup plus vite.
Ouais. Ah, tu mentionnes un bon point, je trouve, qui est justement d'oser se regarder avec honnêteté. Je trouve que dans le fond, c'est comme ça qu'on avance le plus, même dans le business. Je trouve que l'activité, elle est la réflexion de comment nous, on avance finalement à l'intérieur dans nos questionnements et notamment comment on découvre des parts de nous-mêmes que jusque-là, on avait un peu mis sous le tapis sans s'en rendre compte ou qu'on pensait avoir déjà travaillé et puis qui remonte. On se dit, ah, oh, encore ce sujet-là, mais sous un angle différent ou depuis vers une autre maturité, on va l'aborder, mais en débloquant ça, en allant voir ça, en osant se plonger là-dedans, je trouve que c'est là que derrière, il y a soit un nouvel élan de créativité, soit des changements qui opèrent. Je trouve ça magnifique, c'est vraiment chaud l'équivalence entre l'intérieur et l'extérieur. Ça s'applique tellement dans le milieu entrepreneurial quand on lance son activité. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein. Je
Si,
crois que ce que tu disais rebond.
ouais, je suis complètement d'accord. On est très alignés sur notre vision par rapport à ça, entre ce qui se passe dedans et comment ça agit aussi sur l'extérieur et comment ça se développe. On est vraiment très alignés sur ça.
Ouais, moi je le représente souvent un peu comme un iceberg avec toi, tu as la partie émergée, on va dire, c'est le ouais, c'est ce qu'on va faire dans le business, de stratégie qu'on peut avoir. Bon, c'est une partie qui est importante, mais bon, la partie qui est sous l'eau, tout ce qu'on va passer, tout ce qui pour moi se passe à l'intérieur de nous et ça représente en vrai la grande majorité du travail, je trouve,
Oui.
quand on est entrepreneur, notamment je trouve quand on est entrepreneur et qu'on travaille avec, enfin, qu'on apprécie les énergies ou qu'on aime bien regarder la vie selon cet angle-là, c'est inévitable d'aller travailler sur ce qui se passe sous l'eau.
Oui, et à la fois dans l'impalpable, mais aussi dans la matière, hein. C'est vrai que quand on se met à son compte, on a une petite idée du fait qu'on va avoir toutes les casquettes, mais je pense que cette idée, elle est tellement restreinte. On doit faire tellement plus, on doit vraiment être multicasquette. Mais c'est pareil au niveau aussi énergétique, c'est bien d'aller creuser, d'aller au niveau développement spirituel. Moi, je continue, tu vois, je disais que je continue à aller voir d'autres accompagnants, thérapeutes, recevoir des séances énergétiques, etc. Je continue à me former aussi. y compris dans les outils auxquels je forme. Donc, je continue à former en archives akashiques, je continue à former en Reiki sur différentes branches. C'est ultra important, c'est riche pour moi et ça enrichit du coup ma transmission aussi. Et ça me permet de remettre aussi en question. Il y a cette notion de je ne détiens pas la vérité, ce que je transmets, c'est ma vérité du jour. Et c'est le cas aussi là dans cette interview, dans cet entretien. Peut-être que quand je le regarderai dans 6 mois ou dans 6 ans, je me dirai j'étais jeune et optimiste. Ou pas, ou je me dirai waouh, j'avais raison.
Ouais. Donc c'est un bon exemple ce que tu dis de finalement exprimer sa vérité du moment, sachant que là maintenant c'est juste. C'est qu'au début, moi, quand je faisais des vidéos, tout ça, j'avais tendance à me dire est-ce que ce que j'ai dit est juste? Et avec du recul, je me dis bah si à cet instant-là c'était juste. Et des fois 6 mois plus tard, je peux faire un contenu sur l'opposé. Et les deux sont vrais. Pour moi, c'est un peu comme deux polarités. Des fois, on va visiter un angle de vue, des fois, on va visiter l'autre. Ça ne veut pas dire que un est plus vrai que l'autre. Juste que la vie est évolution et donc on évolue aussi dans notre discours. Mais je trouve que c'est important d'exprimer sa vérité à cet instant T, sachant que c'est ce qui doit être dit là maintenant et ne pas douter de ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, transmettre à travers toutes toutes les différentes activités que tu fais? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans ce projet entrepreneurial que tu mènes, dans les transmissions, dans le fait d'aider les gens?
C'est pas ce que j'aime le plus transmettre. Il n'y a pas quelque chose que j'aime plus transmettre, mais ce que j'aime, c'est au sein des diverses transmissions que je peux être amenée à faire. Je place des notions où je vais un petit peu secouer les gens. Je sais que ce n'est pas toujours agréable pour eux à recevoir. J'ai des mots qui peuvent être impactants quand j'identifie des croyances limitantes ou des schémas limitatifs. Je viens un petit peu bousculer là-dessus. Je le fais en conscience, toujours avec bienveillance et amour, c'est important. Mais je sais que ça peut. Des fois, il y a des mots où, comme la notion de reprendre la responsabilité de ses émotions et de ne pas rejeter à l'autre, en fait. Donc, ça, c'est une notion qui, pour beaucoup de personnes, vient gratter. Tout comme le fait de vouloir à tout prix aider une personne, l'accompagner. Et je dis, mais attendez, si elle n'a rien demandé, c'est votre syndrome du sauveur qui vient. Et donc, la majorité d'entre nous, dans ces milieux-là, on a le syndrome du sauveur. La seule chose, c'est qu'il faut l'identifier et du coup, calmer un petit peu. Et respecter quand même la liberté en face quoi, de la personne en face. Donc oui, c'est plus des petites choses que je vais venir mettre au sein des divers enseignements qui viennent secouer un petit peu. Et j'aime bien parce que je vois le potentiel d'évolution au moment où je transmets. Et je garde contact avec ces personnes-là. Et je vois ensuite l'évolution déjà sur la formation archive akashique, par exemple, entre le premier jour et le troisième jour. Je vois leur évolution et ils ne s'en rendent pas forcément compte tout de suite, mais moi je le vois très rapidement et c'est super chouette de me dire waouh, quelle expansion, quel développement, c'est vraiment super, j'adore.
Ouais, ça me fait rappeler, enfin, ça me fait penser à ce que tu disais pendant qu'on faisait le coaching, que toi, tu adresses en priorité. En tout cas, tu penses à des gens qui sont sur un certain cheminement. Alors, tu avais des meilleurs mots que ce que je suis en train de dire, mais ce sont des personnes qui sont dans une certaine quête spirituelle ou d'évolution. Et du coup, ça me fait penser, tu vois, tu parlais du syndrome du sauveur. Ou qu'est-ce que tu vois souvent comme tendance ou comme façon de penser, comme piège dans lesquels les gens peuvent tomber, on va dire, sur ce chemin.
Syndrome du sauveur clair net, c'est très très présent. Pas mal de croyances et de blocages liés à l'argent aussi. Des notions de faut travailler super dur pour gagner de l'argent, trop d'argent c'est pas bien, argent mal acquis ne profite pas, tu vois ce genre de croyances. Ou alors je ne mérite pas de recevoir de l'argent. Donc il y a vraiment un blocage souvent sur cette notion du donner et de recevoir. Parce que c'est intimement lié en fait, hein, au niveau de l'abondance aussi, c'est intimement lié. Qu'est-ce que je vois d'autre en schéma? Le manque de confiance dans leur capacité. Ça ressort quasiment tout le temps. Et ce qui est fou, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de don. On n'a pas eu un cadeau à la naissance. Il n'y a pas de gens qui ont un don de je ne sais pas quoi. Et ça voudrait dire tu es l'élu, tu as été choisi, on t'a fait un cadeau à la naissance. Non, on a tous des capacités. Plus ou moins développés en fonction de nos parcours, en fonction des croyances dont on a hérité, mais on a tous des capacités qu'on peut développer. Donc voilà, cette cette notion de ben moi je vais pas y arriver, moi j'ai pas confiance. J'aime bien accompagner sur cette notion-là aussi parce que c'est là que je vois des gros chiffres et que je vois des loquets qui sautent. Et l'autre endroit où je vois un loquet qui saute, c'est les gens qui viennent à moi qui sont prêts à faire un shift, à se lancer, pas forcément un virage à 360, mais ne serait-ce qu'à créer leur activité et se lancer, qui avaient peur d'être visibles et qui commencent à être OK à être visibles. Généralement, je pense que c'est énergétique. Je n'ai pas identifié de raison particulière, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a échangé, qu'on a été en présence, il y a un loquet qui saute et ça, c'est super cool.
Ah, excellent. Ah oui, donc il y a vraiment en plus une correspondance entre des discussions que tu peux avoir, des choses qui changent à l'intérieur et derrière comment la personne va évoluer concrètement dans son parcours, dans son projet qu'elle avait. J'ai fan aussi hein, de voir l'équivalence entre ce qui se passe à un niveau c'est-à-dire plus énergétique. Puis après, qu'est-ce qui se débloque dans la matière et comment des nouvelles possibilités, des actions qu'on n'arrivait pas à concrétiser, comment est-ce que tout d'un coup ça devient plus facile et plus fluide. Écoute, merci pour partager ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire du coup, tu en as parlé un petit peu, mais si tu as encore un autre truc à dire sur ces personnes qui manquent de confiance dans leur, ou qui doutent de leur capacité, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes?
Qu'elles ne sont pas moins capables que quelqu'un d'autre, qu'on a tous hérité de cette petite étincelle divine à l'intérieur. Et que ce qui nous incombe, c'est de la laisser briller aussi, de rentrer en contact avec cette partie de nous et de la laisser briller. Qu'il n'y a pas de raison qu'elles y arrivent moins que quelqu'un d'autre. Voilà. Et que ce n'est pas obligatoire de passer par une formation non plus. Il y a certaines personnes qui souhaitent se former, puis qui veulent avoir un cadre, etc. Et c'est complètement OK. Je fais partie, moi, de ces personnes-là qui ont besoin d'une formation, d'un cadre, un truc un peu reconnu. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de ça. On a tous la possibilité d'accéder à plus de confiance. Finalement, on parle de spiritualité, mais pas dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines. Si on prend l'exemple de la peinture, il y a des gens qui sont naturellement doués, qui à 5-6 ans vont déjà faire des tableaux, on va se dire, waouh, on va se décrocher la mâchoire. Et puis nous, on est là avec notre fusain et notre pastel, en mode, je ne sais pas faire. Et avec de la pratique. En fait, c'est surtout une notion de pratique. C'est comme dans le sport. C'est une notion de pratique. Plus on va pratiquer, plus ça va être fluide. Jusqu'à un moment où souvent les gens qui ont ces capacités déjà développées, il y a la notion de se reposer sur ses acquis. Voilà le truc, moi j'avais ça sur mes bulletins à l'école, Sabrina se repose sur ses acquis. Il y a cette notion-là souvent c'est chez ces gens-là. Et chez les gens chez qui c'est moins développé, eux ils vont pratiquer, 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 jusqu'à finalement arriver au même niveau, voire même dépasser ces personnes chez qui c'est inné. Donc vraiment c'est accessible à tout le monde.
Ouais. Ouais, ça fait penser à, quand tu dis ça, je me reconnais beaucoup par rapport à, tu vois, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était pas évident. Et quand les gens me demandent, est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui se lance, mais souvent quand même, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est, bah, faut en faire une, et puis une deuxième, et puis une troisième. Quand on aura fait 100, déjà, il y a quelque chose qui se sera développé, et tu te diras, en fait, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeant. En fait, il n'y a pas de secret, par moment, c'est, si, bah, crois en ta magie, crois que ce que tu racontes là, à l'instant T, c'est bon, c'est ce que tu dois dire. Et de toute façon, quand on aura fait 50 pas plus loin, tu auras du recul et tu apprendras tes expériences passées. Mais de toute façon, tu n'as pas accumulé assez de vécu de toute façon pour savoir comment tu peux t'améliorer. Ou c'est juste, aie confiance. Vas-y, fais. Et tu comprendras au bout d'un moment quelles sont les leçons qu'il fallait en tirer. Je me rappelle, ou je vois des fois aussi, moi, des personnes en coaching qui théorisent beaucoup. Et j'ai l'impression que il y a quand même une partie où bah, c'est en pratiquant, c'est en emmagasinant du vécu que derrière, tu accumules de la sagesse et c'est là que bah, tu peux mieux faire et t'améliorer. Et ce côté faire, moi, c'est quelque chose. Je pense que c'est ça qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. C'est avançons, faisons des choses et c'est comme ça qu'on apprend. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu veux rebondir là-dessus.
Tellement d'accord avec toi. Ne serait-ce que pour les stories faciales. Donc, tu vois, tu sais très bien, on en a discuté, les directs, c'est. Je suis encore un peu timide sur le direct et merci encore pour cette invitation du coup. Mais les stories facecam, j'en fais beaucoup. La toute première, j'étais fébrile. Puis une deuxième, puis une troisième. Puis finalement, aujourd'hui, mais j'y prends plaisir en fait à faire ces stories facecam. Et souvent, je dis aux personnes qui ont du mal comme ça à se montrer, je dis mais fais une story. Ah oui, mais on va voir. Mais je dis mais la story, c'est pas engageant. Tu peux l'effacer, tu peux la refaire 24 fois si tu veux. Aujourd'hui, moi, je fais mes stories direct en live. S'il y a un mot qui est mal dit, je rigole, j'en refais une deuxième et je rigole de moi-même et c'est complètement OK. Mais au début, cette notion de on peut effacer, on peut reprendre, on peut, c'est vachement énorme. Donc, on a aussi des outils qui nous aident à sortir de cette zone de confort. Et effectivement, ça va être comment tu fais pour être à l'aise en story face cam? Bah, t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois. Et puis, à un moment, tu vois que finalement, tu kiffes, quoi. Donc, t'en fais plein.
Ouais, il y a un super point dans ce que tu dis là, c'est que bah, au début, c'est pas forcément facile ou c'est pas forcément tout fluide. Par contre, en faisant, au bout d'un moment, on finit par y trouver du plaisir. Donc, des fois, le piège, c'est d'arrêter trop vite en se disant, bah, du coup, comme j'ai pas vraiment tant que ça de plaisir, ni c'est pas si fluide, c'est pas si facile, alors c'est que c'est pas pour moi. Et dans ces cas-là, ce jeu-là, on n'avance de rien, quoi. Et je trouve qu'il y a une période qui est un peu délicate, un peu challengeante, où on te demande d'y croire ou ah ouais, tu vas. On dirait que c'est la période la plus difficile, presque, avant de trouver la dynamique qui fait que ça devient facile de faire. Et cette période, elle est assez, comment dire, assez déterminante. Tu arrives à passer à travers ça et te dire, je continue quand même, j'ai confiance, ça va le faire. Et ça finit par devenir du plaisir et devenir fluide. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'au début, ce n'est pas toujours le cas. C'est important de rappeler ça peut-être aux personnes qui sont dans une phase de démarrage dans quelque chose aujourd'hui.
Et c'est ouais, c'est vraiment valable pour tout, hein, que ce soit le sport, là on parlait des stories, mais que ce soit le sport, les techniques énergétiques, l'alimentation, l'art, les gens qui commencent un instrument, c'est pareil. Enfin, vraiment, c'est valable dans tous les domaines. Cette notion
Ouais.
de un moment où il faut avoir patience quand on arrive sur le plancher, là où ça stagne un petit peu, puis après, c'est bon, on est en rampe de lancement.
Ouais. Ouais. Ce qui me fait penser du coup un peu à qu'est-ce qui est important dans le fond en fait. C'est-à-dire, vu qu'il y aura ces périodes de résistance, ces périodes qui ne sont pas toujours faciles, où il n'y a pas toujours de plaisir, c'est pas toujours aussi fluide que voulu, c'est comment est-ce que on sait qu'il faut quand même avancer. Là, je pense notamment à notre désir ou à nos envies d'aller dans une certaine direction et comment est-ce que justement, quand c'est difficile, qu'est-ce qui peut nous aider pour se dire que j'en ai vraiment envie, quel est mon désir vraiment à l'intérieur? Est-ce que tu aurais quelque chose qui te vient à l'esprit par rapport à ça pour retrouver l'étincelle quand ça commence à devenir difficile?
C'est ne pas perdre de vue la vision, la raison pour laquelle on le fait. Donc, ça peut passer par plein de choses, et notamment par un vision board, par exemple. Donc, moi, mon vision board, c'est des Polaroids sur la porte de mon salon. Et quand je travaille, je suis assise en face, donc je les ai tout le temps dans le champ. C'est ne pas perdre la vision, c'est revenir à la vision. Ok, pourquoi je l'ai fait? Où est-ce que je voulais aller? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je modifie pour arriver à ça? Mais c'est vraiment garder la vision. Ça peut être des post-it sur le miroir de la salle de bain, d'encouragement, ça peut être des affirmations positives. Il y a plein d'outils qui peuvent nous aider vraiment à revenir à cette vision. Des méditations de visualisation aussi. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Ça peut être une lettre à soi-même. Il y a des sites sur lesquels on peut s'écrire une lettre à soi-même dans 1 an, dans 5 ans. Ça peut être toutes ces choses-là. Ça va faire partie d'un petit programme là, sur la manifestation, ces choses-là notamment. Et c'est ça, c'est comment on maintient la vision. L'inconvénient de mon point de vue d'un vision board, ça va être que généralement les gens le font en début d'année. Yes, début d'année, on a plein on est plein de bonne volonté, on fait notre vision board, on veut aller là, tac, on le met à un endroit, puis on l'oublie. Et on ne maintient pas notre vision tout au long de l'année. Ce qui fait que certaines personnes vont y aller et vont moins lâcher, vont avoir moins de doutes ou vont y aller. D'un point de vue extérieur, plus facilement, plus rapidement, ça va être la façon dont ils maintiennent cette vision. Qui sont entre le moment où ils posent la vision et le moment où la vision se réalise, en fait? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux moments-là? Et c'est tout ce chemin entre les deux qui est tout aussi important que la vision du début, en fait.
Ah, waouh, beaucoup ça. Ah oui, ça, je veux bien qu'on en parle plus de ce sujet parce que, bah, comme tu l'as dit toi-même, tu en avais l'occasion d'en discuter de façon nous en individuel, de cette envie pour toi de créer un programme, notamment autour de la manifestation. C'est un sujet qui me fascine. Et c'est quoi toi tes conseils? Là, tu as commencé à en partager par rapport à la vision, le vision board. Qu'est-ce que tu dirais ouais, à quelqu'un qui a des désirs, des envies, qui s'intéresse à la manifestation, qui sait que c'est possible, qui sait qu'on manifeste notre réalité? Et tu lui dirais de commencer par quoi? C'est quoi les choses les plus importantes à garder en tête?
La première chose, ça va être de partir de l'existant. Ok, où est-ce que j'en suis dans tous les domaines de ma vie? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et de ce qui ne me convient pas, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je me vois dans 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce que je veux changer dans ma réalité aujourd'hui? Donc en fait, ça va vraiment être, on part de l'existant et on avance vers ce que l'on veut. De ce que l'on veut, c'est là qu'on va pouvoir construire des vision boards, des affirmations positives, certains outils. Une fois qu'on a identifié ça, on revient dessus un mois ou deux après. Ok, quelles sont les croyances limitantes? C'est une façon de les appeler, c'est comme ça qu'on les appelle le plus communément, mais en tout cas, quelles sont les croyances qui vont à l'encontre de ce que je désire manifester? Ok, comment je change ces croyances? Ça va vraiment être un cheminement où on revient, je te disais, quand on revient à la vision en fait. Donc le point de départ, ça va être l'existant. Et après, ça va être évolutif, mais en gardant toujours la vision tout du long.
Mmh. Ah, excellent. Ouais. Ouais. Tu vois vraiment ça comme on part de la base, où on en est de manière terre à terre, où est-ce qu'on peut aller, et ensuite, au fur et à mesure que l'on avance, essayer de remarquer c'est quoi les cailloux sur le chemin quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qui fait que ça se manifeste pas encore. Et comment est-ce que je peux remarquer ce qui entrave ça? Comment on fait, du coup, selon toi, pour remarquer nos croyances limitantes? Je trouve que pour moi, ça, c'est un gros point. C'est plus on réussit à remarquer justement les freins qu'on s'est construit soi-même, plus ça se manifeste presque tout seul. Comment on fait, du coup, pour remarquer selon toi?
Ça nous demande d'être une vigilance à soi-même, en fait. Ça nous demande d'être vigilant par rapport à nos pensées. Ça nous demande d'être l'observateur intérieur de qui on est à l'extérieur. Quelles sont nos pensées? Quelles sont nos actions? Quel est notre vocabulaire? Moi, c'est là que j'identifie le plus avec les gens qui viennent à moi, c'est le vocabulaire. Et je dis, mais tu te rends compte, tu viens de dire ça, donc ça veut dire que derrière, il y a cette croyance chez toi. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Et du coup, ça, déjà, ça vient un peu débunker le truc de se dire, oh, j'utilise ce vocabulaire-là. Il y a des personnes, par exemple, dans leur champ lexical, il y a beaucoup la bataille. Bon courage. Oh là là, j'ai lutté pour faire tel truc. Il y a cette notion de bataille, de lutte, d'acharnement. Tu me connais, hein, on a échangé un petit peu ensemble. Moi, j'aime bien que les choses soient le plus fluides possible. Donc, ce champ lexical-là, non. Donc, c'est vrai que du coup, c'est des choses que je vais entendre particulièrement, ou moi, je vais m'entendre aussi parfois dire là, j'ai dit un mot qui. Non, il y a un problème. Tu vois, quand on dit sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille? Pour moi, la notion de travailler, c'est une notion de labeur. Et ça ne colle pas avec cette notion de fluidité. Donc, je sais que ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut que je travaille, c'est des axes d'amélioration. Ouais. Il y a plus le côté improvement que travail.
Bien ça. Ouais. J'ai déjà pensé plusieurs fois aussi à ce mot, même quand on parle de travail intérieur. Moi, je me dis, travail intérieur, ça veut dire qu'il faut comme se galérer pour aller quelque part. Et c'est vrai que c'est assez utilisé quoi, dans le milieu développement personnel, spirituel, et bon, il faut utiliser les mots courants, mais je sais que je fais un petit peu attention aussi à qu'est-ce qui se cache derrière quand on utilise ces mots, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce que je veux dire, est-ce que je ne tombe pas dans le piège non plus d'utiliser un mot de manière pas tout à fait consciente, tu vois, de l'utiliser, et puis moi aussi de réaliser derrière, hein, c'était pas tout à fait la notion juste que je voulais transmettre. Qu'est-ce que justement tu vois dans le parcours de manifestation quand tu veux manifester quelque chose, c'est quoi pour toi les erreurs? Erreurs, on peut appeler ça des erreurs, mais que les gens font le plus communément.
De croire qu'ils ne peuvent pas y accéder ou que ce n'est pas pour eux. Parce que là, tu vois, je te parlais d'une façon très, très mentale, en fait, très dans la matière de manifester. Ok, on fait un point sur l'existant, on avance, où est-ce qu'on veut aller, on a des tels et tels outils. Mais en réalité, la meilleure, on manifeste tout le temps. Cet entretien, on l'a manifesté, on manifeste tout le temps, à la moindre seconde. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses particulièrement qu'on va avoir facilement sans faire grand-chose? Et je me suis rendu compte que les choses dont j'ai rêvé, je les ai eues. Et je dis toujours rêver grand. Je prends l'exemple de mon appartement. Quand j'ai repris mes études il y a quelques années, j'étais en foyer jeune travailleur dans la ville dans laquelle j'habite. Et quand je rentrais de la fac, le bus s'arrêtait dans une zone qui était en friche et j'ai vu un immeuble sortir de terre. Et j'ai vu des balcons avec des persiennes en bois que je trouvais superbes. Et à chaque fois que je descendais du bus, je voyais l'immeuble se construire. Je voyais qu'il y avait la station de RER au pied de l'immeuble. Et je me disais, Waouh, quelle chance ils vont avoir les gens qui vont habiter là, le rêve. Quelle chance ils vont avoir, c'est le rêve. Il y a un espace vert, c'est pas véhiculé en bas. Enfin, et du coup, ils ont ouvert les logements en 2013. Et quand j'ai reçu mon papier de la mairie pour aller faire ma visite et que je me suis retrouvée en bas de l'immeuble, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je l'ai rêvé. Quand j'ai commencé le Reiki, je suis en partenariat avec un maître dans le Reiki. Quand j'ai commencé mon tout premier degré, il y avait une personne qui venait réviser parce qu'elle commençait un partenariat avec lui. Et je me suis dit, waouh, quelle chance elle a de travailler avec lui. 3 ans après, c'était mon tour. Donc l'appartement, j'ai mis 3 ans. Le Reiki, j'ai mis 3 ans aussi. Maintenant, ça va un peu plus vite parce que j'en ai pris conscience du coup sur ces points où je me suis dit, ok, c'est quoi le facteur commun? C'est quoi le dénominateur commun? C'est que j'ai rêvé ça. Du coup, des fois, il m'arrive même de m'arrêter dans Paris quand je vois des belles terrasses, de m'arrêter sur le trottoir d'en face et dire, waouh, le rêve!
Excellent, mais oui, mais oui, mais oui, tellement d'accord avec toi. Ouais, déjà parce que ça fait du bien sur le coup de s'autoriser à rêver et puis de voir des belles choses. Et... Mais en plus, je suis sûr que ça met des images à l'intérieur qui, bah, quand il y a un sentiment en plus derrière de désir, d'admiration, de... pour moi, ce sont des énergies qui aident derrière à fait qu'on va matérialiser ça. Pour moi, c'est souvent l'idée d'avoir une image en tête plus un sentiment qui est fort. Et... Donc c'est ça qui aide à créer des choses, enfin créer, je sais pas, c'est pas créer de zéro, mais à manifester, on va dire, des choses dans la matière.
Ouais,
Comment?
sans conscience, ouais.
Ouais, exactement. C'est quoi la différence du coup entre le moment où on rêve, mais en se disant ah, j'en rêve, mais c'est pas pour moi, et le moment où on se dit bah oui j'en rêve, mais cette réalité elle est accessible pour moi aussi. Où elle est la différence, ou comment est-ce que ça change le positionnement?
Cette notion de ressentir, elle est ultra importante dans la co-création avec l'univers. À partir du moment où on rêve quelque chose, on le vibre, on revient sur une des lois universelles hein, que tout le monde appelle la loi de l'attraction, mais en fait c'est la loi de la résonance, on parle de la même chose, deux énergies similaires s'attirent. À partir du moment où on va vibrer ça, c'est pas que ça va arriver à nous plus facilement, c'est qu'on va arriver l'un à l'autre réciproquement plus facilement. À partir du moment où il y a un mais, oui mais, ouais même si, bien que, enfin tous ces termes-là, on fait échec et mat, on revient avant en fait. Dès qu'on a cette notion de mais c'est pas pour moi, ok, c'est pas pour toi. Ça reviendrait à appeler l'univers, oui bonjour l'univers, je rêve d'une super maison. Au Portugal, en Algarve, mais en fait, c'est pas pour moi. Et l'univers va répondre, oui, d'accord, alors je prends votre commande, une super maison. Ok, je vous prépare le bon de commande. Ah, c'est pas pour vous, je l'envoie au voisin. Il y a un côté, voilà ce que je veux, mais en fait, non, c'est pas pour moi. Finalement, je le mets de côté. On manifeste finalement ce qu'on vibre, ce qu'on demande, ce qu'on pense. Donc si on pense que c'est pas pour nous, bah, c'est pas pour nous. Ça me fait penser à des personnes célibataires qui vont dire, mais de toute façon, l'amour, c'est pas pour moi. J'ai jamais été heureuse en amour. Ou j'ai jamais été heureux en amour. Ok? T'es en train d'ancrer ça dans ta réalité, en fait. J'entends bien que c'est pas évident de dire je suis heureux ou heureuse en amour si on est tout seul et qu'on a envie d'être en couple. Mais d'avoir ce vocabulaire et ces pensées-là de toute façon, c'est pas pour moi, j'ai jamais été heureuse, il n'y a pas de raison que ça change. On vient apporter de l'énergie dans cette réalité-là.
C'est toujours les deux phases d'un côté, qu'est-ce que je désire, comment est-ce que j'entretiens le rêve, comment est-ce que j'injecte des émotions, comme on dit, qu'est-ce qui me fait rêver, quels sont mes désirs, c'est pour moi comme le côté plus positif, et puis derrière, justement, quels sont les croyances limitantes, le vocabulaire que j'utilise, les positionnements à l'intérieur qui font que, en fait, je dis que je veux ça, mais je dis que je n'y crois pas. Je trouve que c'est vraiment c'est les deux en même temps. S'il nous manque le désir et le rêve, bah, finalement, on fait comme un travail d'introspection, mais c'est pour aller vers quoi? Si on n'a que les rêves, mais on oublie d'aller regarder un petit peu plus à l'intérieur, les croyances limitantes, etc. En fait, on va se dire au bout d'un moment, bah, je sais pas, ça n'arrive jamais. J'ai l'impression que c'est vraiment pour moi, il y a les deux faces. Un côté plus lumineux, peut-être un côté plus sombre, mais les deux sont importants, je trouve, pour créer la réalité à laquelle on aspire. Je ne sais pas à quoi ça te fait penser quand je dis ça, mais.
Je suis d'accord avec toi que les deux sont importants, mais pour moi, le seul point, c'est la partie où on dit, même si je ne mérite pas, enfin, cette deuxième phase qui, de toute façon, fait partie de nous d'une façon ou d'une autre, c'est d'en être conscient quand même, de se dire, OK, est-ce que c'est parce que finalement, ce n'est pas le moment ou parce que finalement, je ne le veux peut-être pas tant que ça? De voir, OK, pourquoi je me mets en échec et mat là-dessus? Est-ce que finalement, c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que ce n'est pas autre chose que je veux? Est-ce que ce n'est pas différemment? Après, il y a une notion que je ne peux pas transmettre dans la manifestation, qui est le fait de savoir, d'être sûr, d'avoir foi. Ce moment où je sais. Les personnes qui me suivent, j'en ai vu passer quelques-unes là, les personnes qui me suivent ont vu, alors cette année beaucoup moins, parce que j'ai moins participé, mais l'année dernière, j'ai gagné énormément de concours sur Instagram. Et en fait, quand je participe au concours, je me vois des fois le soir avec ma meilleure amie au téléphone et je lui dis, j'ai participé à un concours que je vais gagner. Je sais que je vais le gagner. C'est une évidence. Et ça, je ne sais pas comment le transmettre, cette notion de je sais. Et ça loupe pas. Donc, en fait, je suis contente, je ne suis pas surprise, mais je suis contente, tu vois. Et ça, c'est la seule notion aujourd'hui où c'est moins facile pour moi à transmettre, cette notion de nourrir ce côté je sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Confiance, c'est de la foi, c'est sûr, c'est comme ça ne peut pas se passer autrement.
Donc c'est tellement aligné, t'en es sûr en fait.
Donc ça, c'est le seul point que je ne sais pas comment transmettre.
Quand on parle, je trouve que ça permet de toucher la notion et de se rendre compte quand est-ce que on est aligné avec ça, quand est-ce qu'on l'est moins. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Quand tu dis, je reconnais aussi des phases de vie où je sais que ça va se passer. C'est plus, enfin, c'est comme une évidence. Et puis des moments où j'ai l'impression un peu de forcer la manifestation pour. À des fois, en fait, me rendre compte que c'est pas ça. Je pensais que c'était ça, mais pas forcément si aligné que ça. Mais bon, je pense que c'est un processus aussi constant où on apprend à se connaître en avançant dans nos manifestations. Je crois que c'est ça finalement le plus beau cadeau. C'est pour ça qu'on, en tout cas pour moi, je trouve que au-delà de manifester ou d'obtenir des récompenses ou d'avoir des rêves qui se sont concrétisés, c'est qui je suis devenu dans le processus. Et comment ça m'a permis de mieux comprendre mes fonctionnements. Comme on dit, le voyage est aussi important, sinon plus que la destination. Je trouve que de toute façon, on est là pour mieux comprendre avec qui on fait le voyage, qui est ce personnage dans lequel je me suis incarné, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il crée sa réalité. Et la plus grande récompense, elle est à l'intérieur, qui est quelque chose d'un peu plus, on va dire, un cadeau avec soi-même.
Ouais, je vois le commentaire de Yel qui dit nous avons tous en soi des certitudes. Et ouais, on en a tous en nous.
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, là, aujourd'hui, a envie de changement dans sa vie et sans bloquer, qui a l'impression que pour lui ou pour elle, non, les choses sont figées, ça n'avance pas comme souhaité. C'est quoi un message ou qu'est-ce que tu lui proposerais d'observer?
Je commencerai par lui demander pourquoi, qu'est-ce qui la bloque? Pourquoi elle n'y va pas? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'y va pas, cette personne? C'est la première chose que je l'inviterai à identifier. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Y a une peur derrière. C'est quoi la peur qui est derrière? Les gens ont tendance à oublier qu'on peut toujours faire demi-tour. Je connais plein de personnes qui se sont mis à leur compte et qui sont reparties dans le salariat, qui sont très heureuses d'être reparties dans le salariat. Donc, c'est quoi la peur derrière? Et je pousse même le trait jusqu'à imaginer le pire. C'est quoi la pire des choses qui puissent t'arriver si ça se passe comme tu as peur que ça se passe? C'est quoi la pire des choses? Ah ben, si j'ai pas de revenus, je peux pas payer mon loyer. Ok, c'est quoi la pire des choses? Ben, je me retrouve à la rue. Et c'est quoi la pire des choses? Et c'est quoi la pire des choses? Et c'est quoi la pire des choses? Et puis en fait, une fois qu'on arrive au fait de se rendre compte qu'on ne va pas mourir, souvent c'est ça. On se rend compte que finalement on est toujours en vie et qu'on ne meurt pas et qu'il y a toujours une façon de rebondir. Donc finalement, il y a une partie de nous qui a peur de mourir. Donc finalement, le danger de mort, il n'est pas réel derrière. Oui, l'idée de se projeter à la rue avec des enfants, c'est pas, hein, on est d'accord, c'est pas cool. Mais ça vient aussi aider à libérer cette peur de oh, si ça se passe mal. De toute façon, si ça se passe mal, tu vas réagir avant de te retrouver à la rue. Et je fais juste pousser la vision jusqu'au bout pour que les gens se rendent compte que il n'y a pas un danger de vie ou de mort.
Ah, excellent. Ouais.
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 Et
J'aime beaucoup cette notion.
pardon?
J'aime beaucoup cette notion de ce que tu expliques là, d'aller voir les scénarios catastrophes.
Ben oui, parce
S'autoriser à
que au final, c'est
aller voir ça.
mais au pire des cas, ben, on fait autre chose.
Effectivement, ouais, plutôt que se paralyser en essayant, enfin, se rendre compte qu'on est paralysé, qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'en fait, on ne veut pas regarder des choses qui nous effraient, mais du coup, la dynamique ne se crée pas. Je trouve que c'est sens comme mettre s'autoriser à mettre des lunettes noires en conscience, aller voir ces scénarios-là. Et en fait, c'est plus sain d'aller les voir en conscience, de se dire, bon, enfin, qu'est-ce qui se passerait? Je fais un point avec moi-même. Peut-être, oui, ça peut remonter à certaines peurs, mais je trouve que aussi, quand on avance dans ce processus-là, au bout d'un moment, on souffle. Et qu'en fait, la peur qui potentiellement pouvait nous paralyser et faire que on passait pas à l'action, qu'on se sentait bloqué, en fait, elle commence comme à s'apaiser parce qu'on allait la voir, parce que finalement on lui a donné de l'attention, donc elle a plus besoin de nous paralyser pour qu'on aille la regarder. Elle dit bon, ok, tu m'as vu, donc bon, bah, le champ des possibles commence à se libérer et je trouve que en général, bon, la vie va pas prendre le scénario le plus catastrophique, surtout si on a pris le temps d'aller le voir, il y a moins de
En
chances qu'il aille.
fait, on jamais. On est champion du monde pour se faire. On est tous directeurs artistiques et scénaristes. On est champion du monde pour se faire tout un scénario. Oui, ça va se passer comme ça et on va me dire ça. Mais ça se passe jamais comme ça. Qu'est-ce qu'on perd du temps et de l'énergie des fois à se projeter dans des trucs. Donc autant que ça nous sert, autant qu'on aille voir en conscience. Ok, c'est quoi le pire scénario? Ok. Au tout début de mon chemin avec ce développement spirituel, il y a eu la notion de pour être parfaitement invulnérable, il faut être complètement vulnérable. Au début, c'est un peu buggé chez moi, en gros. Je me suis dit, wow, c'est quoi ce truc? Mais c'est tellement vrai. On a quelqu'un qui va avoir peur, on revient sur la vidéo, qui va avoir peur de pas savoir faire, d'être critiqué, d'être visible. Ben, plus il va être OK avec ce OK, salut, je fais une vidéo. Alors, j'ai la trouille, mais c'est pas grave, je suis là quand même. Qu'est-ce qu'on peut lui dire derrière? On va lui dire quoi? Il a montré sa vulnérabilité, on peut plus l'atteindre, entre guillemets. Il n'y a rien à craindre. Donc, plus on va aller voir ces zones où on se sent vulnérable, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Je l'ai identifié, c'est ça. OK.
Ouais, tellement d'accord avec toi. Je trouve que c'est justement, on a, bah, notamment par l'expérience, on allait voir les différentes parties de soi qui nous font peur, remarquer qu'on ne meurt pas. Vas-y, si je me lance, qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai fait une vidéo, le monde entier va me critiquer. Bon, personne n'a vu la vidéo finalement. Et je trouve que c'est à ce moment-là qu'en fait, on se réconcilie avec des parts de nous qui du coup deviennent des atouts. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ces parts de nous qui comme nous sabotaient parce qu'on ne voulait pas aller les voir et on les ignorait, mais à partir du moment où on s'autorise à aller jouer avec elles, à se dire, bon, allez, faisons quand même une vidéo, certes, je me sens vulnérable, on va voir ce qui se passe. Bah, cette partie-là, comme elle a été écoutée, je trouve que c'est comme une nouvelle carte dans notre jeu, avec laquelle du coup on peut jouer, comme si elle avait un peu inversé sa polarité. Elle nous empêchait de passer à l'action, et maintenant elle devient plutôt comme quelque chose avec laquelle on peut construire et on peut créer. Je trouve que c'est justement que par la vulnérabilité, justement, en allant voir les parts de nous qui souffrent ou qu'on n'a pas envie d'aller voir, que bah, finalement on se retrouve avec des nouvelles énergies avec lesquelles plutôt que de créer en négatif, on peut commencer à créer en positif. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis
Ça
là.
a du sens, clairement, c'est ça.
Ouais, ça te parle aussi.
Avec les cartes qui nous sont distribuées, on a l'impression au départ que ça n'a pas de sens et on se retrouve avec une carte flush. Et on se dit, qu'est-ce que je vais faire avec mon valet, madame, mon 10 et j'ai pas la suite, quoi. Mais faire
Ouais.
ça, les cartes vont arriver.
Exactement, c'est un bon point. Je trouve que ça reprend un petit peu le sujet que tu disais tout à l'heure sur avoir confiance dans ses capacités. On peut avoir des doutes, mais en fait, c'est aussi réaliser que là, à cet instant T, on a toutes les compétences pour faire ce qu'on doit faire. J'ai ce sentiment-là, hein, pour avancer, on a les moyens, bah, toutes les conditions sont réunies, toutes les ressources sont là pour faire ce qu'on doit faire. Et que des ressources suivantes, des compétences suivantes, des dons vont se révéler sur le chemin, mais on ne les aura pas dès le départ. C'est parce que J'accepte d'avancer que les choses qui étaient enfouies vont pouvoir se révéler. Je vais pouvoir trouver de la richesse dans le départ d'ombre. Et du coup, je renforce mon personnage qui fait que je peux vibrer encore plus, rayonner encore plus, attirer plus de choses. Mais... encore une fois, pour moi, on a toujours tout pour démarrer. On a tout pour avancer à cet instant T. Tout nous est donné pour que... Il n'y a rien qui manque, finalement.
Voilà, les personnes qui nous suivent ou qui regardent en replay, si ce n'est pas clair, lancez-vous. Lancez-vous dans vos projets. Il n'y a que vous qui vous arrêtez, qui vous limitez.
Très bien dit. Est-ce que c'est le mot de la fin pour toi ou est-ce que tu penses à d'autres choses que tu voudrais nous partager, que je n'ai pas forcément posé comme question ou...
J'ai rien qui me vient de particulier en tête. Je pense qu'on a... On a bien échangé sur les différents sujets. Donc, ouais. C'était très chouette en tout cas. Merci Thomas pour cette invitation.
Bah, au plaisir. Du coup, tu vois, ça c'est un bon cas de figure. Parce que du coup, le live, tu disais que pour toi, c'est sortir de ta zone de confort. Alors comment ça se sent là, à la fin de ce live finalement, maintenant que tu l'as fait?
Bah, je pense que c'est net. Et si on voit le déroulé, les gens, moi quand je vais le revoir, quand je vais voir les débuts, en mode alors qui je suis, je sais plus qui je suis, où j'habite. Et puis finalement, c'est super fluide après. J'ai pris un plaisir monstre et je te remercie pour ça. Et peu importe ce que les gens vont en penser et comment vont l'accueillir, finalement, moi j'ai eu beaucoup de joie à faire ça avec toi. Donc vraiment, merci. Et ça me donne envie d'en faire d'autres. J'ai toujours le petit truc qui bloque sur le fait d'en faire toute seule, mais je vais lancer ça aussi. Comme ça, je vais m'appliquer les conseils dont on a parlé. Donc, d'en faire un, et puis un deuxième, un troisième, et puis voilà, proposer des directs aussi de temps en temps.
Excellent. Bon, tu produis déjà beaucoup de choses, et ce serait encore un autre outil dans ta panoplie pour t'exprimer, partager ton message. Sauf que la plupart des gens qui vont regarder ce live, ils vont dire, bon, elle était tellement à l'aise, pour elle, c'est tellement fluide. Je pense que la plupart des gens jamais se sont dit, ah, c'est la première fois qu'elle fait. Vraiment, hein, moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai quand je discute avec toi. Ça semble tellement facile et fluide. Mais c'est aussi, je sais, parce que tu as eu l'occasion d'en faire des vidéos, comme tu disais, face cam, story. Enfin, c'est pas non plus débutant.
C'est le deuxième. J'en ai fait un au tout début, quand j'ai lancé les archives akashiques, mais c'était... Là, je sens quand même que je suis plus à l'aise, on va pas se mentir. Je le sens quand même. Et puis, j'avais fait un interview aussi pour une chaîne YouTube qui est sortie aujourd'hui. Je l'ai fait le mois dernier. Je l'ai fait quand j'étais en Grèce. Donc, ça commence à faire partie de ma réalité. C'est chouette.
Bravo. Bravo, bravo. Est-ce que les personnes qui veulent davantage te suivre, connaître ton actualité, s'inscrire pour quelque chose que tu offres, comment on peut te suivre? C'est quoi la meilleure plateforme pour savoir ce que tu fais?
Aujourd'hui, c'est Instagram. Sur le compte littlemoon.reiki. À terme, il y a un site là, qui arrive, qui va être en préparation bientôt. Il va y avoir pas mal de changements, même sur la page Instagram, de noms, de couleurs. C'est en train de bouger pas mal pour moi. Donc, en tout cas, essentiellement sur Instagram. Et puis, il y a le site internet qui arrive. La page Facebook, elle est uniquement pour les événements. Donc, elle est très peu active. Donc, c'est vraiment mon média chouchou. Après, je reste aussi disponible. On trouve facilement mon numéro de téléphone. Je suis aussi disponible via WhatsApp avec grand plaisir.
Ah, OK. Bon, ben, de toute façon, je repartagerai pour ceux qui nous regarderont en replay pour trouver facilement le compte de Sabrina. Je posterai en commentaire là ou même en story. Donc, ça devrait quand même être assez facile pour pouvoir te suivre. Ouais. Merci encore, Sabrina. Merci beaucoup pour le partage. J'ai beaucoup apprécié aussi notre échange. J'espère que les gens qui le regarderont prendront autant de plaisir à nous écouter que nous, on a pris à discuter. Je vous souhaite une belle journée, Sabrina, et puis plaisir de garder contact.
Ouais, à bientôt.
Je t'embrasse. Bye bye.